T'as sûrement mille questions en tête en ce moment quand t'es ado. Je le sais parce que, spoiler alerte, je suis passée par là avant toi. Et finalement, tu verras que ces questionnements ne changent pas, quelle que soit l'époque. Parce qu'on s'interroge toutes et tous à cette période de notre vie sur ce qu'on veut faire plus tard et sur la personne qu'on veut devenir. Alors, à l'occasion de la semaine de l'orientation qui se tient jusqu'au 12 décembre, Quand je serai grand te propose un épisode spécial dans lequel plusieurs invités vont tenter de répondre à tes interrogations et partager leur retour d'expérience. En prime, ils te donnent de bons conseils et quelques outils concrets pour avancer sur ce sinueux chemin de l'orientation. Je vais les laisser se présenter, moi c'est Yoko et normalement tu me connais un petit peu si tu écoutes ce podcast. Alors c'est parti.
Et tu veux faire quoi plus tard?
Mais c'est quoi par contre?
Tu veux faire quoi plus tard?
C'est quoi l'égalité des chances?
T'as pensé à ton orientation?
Mais
t'as pensé à ton
si je décide aujourd'hui d'aller dans cette filière,
t'as pensé à ton orientation?
Est-ce que j'aurai le droit de changer d'avis?
Mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard?
Ça fonctionne comme
t'as pensé à ton orientation?
J'ai des gènes de motivation.
J'ai le droit d'avoir envie de découvrir plusieurs métiers.
Tu sais faire un CV au moins.
Qu'est-ce que tu veux faire plus tard?
Mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard?
Je vais vous laisser vous présenter rapidement chacun. Vous pouvez prendre une petite minute, hein, enfin voilà, pour expliquer qui vous êtes et ce que vous faites aujourd'hui.
Faut faire l'appel. faut faire l'appel, faut que tu dises qui se lance.
On commence par Julie.
Ok, donc moi voilà, donc Julie, moi j'ai créé en fait le projet Orientation Tips pour aider les jeunes dans leur recherche d'orientation scolaire, également leur donner des conseils sur les CV, les lettres de motivation, tout pour bien commencer sa recherche de stage, d'alternance ou de premier job. Et en fait c'est un projet que j'ai créé quand j'étais en recherche d'emploi après mes études. Et du coup maintenant il y a une chaîne YouTube, un compte Instagram, un petit peu LinkedIn et un blog, voilà.
Super. Armand ?
Bonjour à tous. Déjà, merci Yoko pour l'invitation. Donc, moi, je m'appelle Armand Cosseron. J'ai cofondé un podcast qui s'appelle « Tu feras quoi plus tard ?» et qui vise justement autour de cette question à interroger un peu la manière dont on peut se projeter. En fait, le constat de départ, c'est qu'il y a un décalage aujourd'hui entre ce qu'on peut apprendre en formation et la réalité de certains métiers, de certaines professions. Et surtout, j'ai réalisé qu'il y avait un besoin de mettre en avant, en termes de prise de parole, des profils qui sont sous-représentés parce que ils viennent de quartiers populaires, parce qu'ils viennent de zones rurales, parce que ils n'ont pas forcément eu le parcours, on va dire, classique de réussite. Et donc je donne la parole à des personnes qui apportent justement leur définition de la réussite.
Et Laura?
Merci Yoko. Donc moi je suis Laura Pironet, j'ai lancé un podcast qui s'appelle Into the Job en septembre 2019, donc un peu plus de 2 ans. Et le constat de départ, c'était de me dire, en fait, c'est assez fou, on connaît tous très bien nos proches, mais au final, quand on doit raconter ce qu'ils font au travail, généralement, on ne sait pas quoi dire parce qu'on ne sait pas ce qu'ils font vraiment au travail. Et pourtant, on les connaît par cœur, mais on ne connaît presque rien de leur réalité au travail. Et souvent, on a plutôt des clichés, des images qui sont là malgré nous parce qu'on est obligé de se figurer quelque chose, mais qui ne représentent pas forcément la réalité de leur quotidien. Donc Into the Job, c'est un podcast d'interview où j'interroge des professionnels qui parlent de leur métier, mais ils ne vont pas raconter quelles études ils ont fait, combien ils gagnent et quelles sont les compétences nécessaires, mais ils vont vraiment raconter leur réalité, donc leur organisation, leur temps de travail, les missions concrètes qu'ils font, mais aussi leur regard sur justement ces images et ces clichés sur leur métier.
J'aimerais d'abord qu'on essaye de dresser un constat de ce qui ne va pas, pour après pouvoir parler des solutions et de ce que nous, on apporte. On essaye d'apporter en tout cas dans ce milieu pour tenter de pallier ces manques qui existent. Donc est-ce que, selon vous, il y aurait un manque d'accompagnement ou un manque de formation de ceux qui devraient accompagner les ados dans leur recherche ?
Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations. Il y en a même énormément et il y a un enjeu qui est de pouvoir les regrouper, les centraliser et les rendre accessibles. Et surtout, pour la question, je pense, c'est plus à destination des conseillers d'orientation, de est-ce qu'aujourd'hui ils sont à jour sur les métiers qui existent et sur les possibilités. Je pense que malheureusement, non. Quel est leur niveau de responsabilité là-dedans? Ça, c'est un autre débat. Mais il y a un enjeu aujourd'hui. En fait, il y avait une étude qui était sortie dans France Stratégie en 2017. Donc, elle commence un peu à dater. Je pense que c'est des chiffres qui ont beaucoup évolué, mais qui disaient 85% des métiers de 2030 n'existe pas encore. Et en fait, on est dans une situation aujourd'hui où il y a des métiers qui apparaissent, des métiers qui disparaissent, certains qui évoluent, beaucoup de transformations, le digital joue son rôle là-dedans, et pour autant, on a de l'autre côté des conseillers qui sont parfois avec des informations obsolètes, plus à jour, et il y a un besoin en effet de pouvoir leur venir en aide, pouvoir leur apporter des outils, pouvoir leur apporter des solutions, et je pense qu'il y a en effet besoin d'un mouvement collectif, d'un élan collectif pour pouvoir rendre accessibles toutes ces informations.
Je rajouterais que, en plus de ça, comme on s'adresse à des jeunes qui ne connaissent pas forcément les métiers, qui ne les connaissent pas, mais qui ne les visualisent pas, on va leur dire des choses sur ce métier qui parfois sont un peu des généralités, parce qu'on est obligé en fait, de passer par là. Et sauf que parfois, le jeune en question va dire « Ah bon, bah non, dans ce cas-là, ce n'est pas pour moi, parce qu'en fait, on m'a dit que je devais être patient, et moi, je m'estime pas patient. » Et on pourrait se dire « Mon Dieu, à cet âge-là, c'est difficile déjà de se connaître. » Donc c'est parfois difficile aussi parce que moi je suis d'accord, il y a énormément d'informations, peut-être un peu trop, mais elles sont aussi assez généralistes et de fait il n'y a pas tellement de choix parfois. Mais c'est ce qui manque et moi je sais que c'était une grosse frustration quand on nous dit en troisième, faites un stage de 2 jours. Mais moi j'avais envie d'en faire 10 des stages en fait, parce que comment est-ce qu'on en choisit qu'un seul ? Ça, c'est hyper difficile et en fait il faudrait en tester plein des métiers comme ça pour vraiment comprendre ce que c'est. Et d'où l'utilité des stages, même pas faire des stages, mais aller rencontrer, envoyer un mail, dire est-ce que je peux vous prendre 10 minutes pour vous interroger sur votre métier et comprendre comment ça fonctionne, ce que vous faites. C'est parfois un peu plus précieux, puisque pas forcément aussi généraliste. Et on se rend compte qu'il y a des gens derrière, et que chaque métier, derrière un métier, il y a des personnes qui les incarnent, et c'est important.
Moi, je pense que l'intérêt de réussir à savoir ce qu'on aime faire, ce dans quoi on est bon et ce qui nous convient pas du tout et ce dont on est sûr que ça ne peut pas coller avec notre personnalité.
En les rassurant peut-être, en leur disant c'est à un instant T.
Exactement.
Et en fait, dans 5 ans, tu auras le droit de changer dans 10 ans. Et ces fameux métiers qui n'existent pas encore, quelle pression je trouve, parce qu'en fait, ils sont déjà paumés et on leur dit que leur métier, on ne les connaît même pas. Donc c'est un peu une pression. Mais en effet, c'est un test à un instant T et on évolue tous. Si on regarde nous en arrière qui on était il y a 5 ans, je pense qu'on se dirait waouh, quel chemin.
Et encore plus il y a 10 ans.
Moi, je voulais rajouter quelque chose sur les tests. C'est vrai que j'ai fait une vidéo, en fait, il n'y a pas longtemps où je me suis vraiment penchée sur la question des tests. Et maintenant, il y a quand même des outils qui sont gratuits. Enfin, par rapport il y a 10 ans où moi, je me suis orientée. Je trouve que, il y a Hello Charlie, Génération Zébré. Eux, ils proposent vraiment des tests, je trouve, qui vont vraiment plus loin que ce que moi, j'avais connu il y a 10 ans et qui accompagnent vraiment plus, en tout cas, le début de la recherche d'orientation scolaire. Et je voulais rajouter sur les généralités des métiers. C'est vrai que quand on a une fiche métier, moi, je prends le marketing parce que c'est là où j'ai fait mes études. En fait, le marketing dans une société qui vend des voitures, dans une banque ou qui vend je ne sais quoi, ça n'a rien à voir que l'entreprise soit petite, grande, le secteur. Et ça, c'est un truc moi que j'avais pas du tout idée en fait quand je me suis orientée. On te présente le métier comme ça et au final, il y a tellement de possibilités à l'intérieur même d'un métier. Donc je comprends que les jeunes soient perdus quoi.
C'est vrai. Armand.
Pour rebondir sur ce que vous dites, en fait, on raisonne beaucoup en termes de métier lorsqu'il s'agit de s'orienter. Et le fait qu'il soit en constante évolution, je pense que c'est un pas de côté qu'on doit faire et se dire regardons plutôt en compétences, en potentiel. Yoko, tu parlais de ce qu'on aime faire. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est assez important, qui a un gros rôle à jouer au niveau de ce qui est mis dans les enseignements quand on est au collège. Quand on est au lycée, pour pouvoir nous aider à trouver notre voie. Et en fait, on nous dit, à la fin de ton collège, t'as un brevet des collèges, à la fin de ton lycée, t'as un baccalauréat, et à un moment, tu dois faire tes choix, et t'as 2 mois pour les faire, parce que la plateforme ferme après, quoi. Donc c'est un peu difficile, c'est vrai, quand on se met à la place des adolescents, des personnes qui doivent faire les choix à ce moment-là, c'est aussi ce canevas on résonne beaucoup en métier, qui peut être un peu limitant, en fait, dans les choix d'orientation, parce qu'on va être tous amenés à changer de métier, à évoluer le métier. Mais voilà, aujourd'hui, on est multi-compétences, multi-sujets, multi-activités.
Et je trouve qu'un autre sujet que j'ai remarqué de plus en plus en travaillant avec Into the Job, c'est qu'au final, cette question des métiers, on en parle aux collégiens, aux lycéens, mais même, je ne sais pas si vous vous souvenez, enfant, à quel point on vous pose la question « Quel métier tu veux faire plus tard ?» Et en fait, ça nous semble normal, mais quand on y réfléchit, je me dis « Mais c'est dingue, parce que est-ce que nous, on nous demande « Et à la retraite, tu voudras faire quoi de tes journées ?» Mais en fait, on n'en sait strictement rien et on s'en fout. En fait, c'est pas le sujet. Tu auras le temps. Alors oui, et c'est dingue parce qu'il y a ce paradoxe que tu évoquais, Armand. Et en même temps, après, on se retrouve 2 mois. On a fini notre stage. On dit, il faut que je trouve un job. Et on se dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Parce que d'un côté, depuis qu'on a peut-être 6 ans, on nous pose la question et on a l'impression qu'il faut qu'on choisisse pour dans un an. Il y a des enfants qui parfois vont sur des salons professionnels. Ça me rend dingue. Ils sont même pas en 5e. Et après, on est là, à Master 2, et on se dit après son dernier stage ou alternance, bon, il faut que je choisisse maintenant.
On dit souvent, oui, en France, on regarde que le diplôme, et ça reste vrai dans beaucoup de domaines quand même.
Ouais, je pense que c'est un gros problème qu'on a du système français aujourd'hui. Après, il y a de plus en plus d'initiatives aussi pour aller chercher à recruter différemment, à travers des jeux vidéo, à travers d'autres types en fait de procédures de recrutement. Mais aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de recruteurs restent à regarder le diplôme. Quand je dis le diplôme, ça va être le niveau d'études, ça va être l'établissement dans lequel on a obtenu ce diplôme, et éventuellement la ville dans laquelle on a été. Et en fait, c'est pas normal aujourd'hui qu'il y ait une forme de discrimination, hein, parce que t'as fait un master, mais tu l'as pas fait dans l'une des universités les plus prestigieuses, que tu ne puisses pas prétendre à certains emplois.
Et je crois que Julie, tu veux intervenir.
Je pense qu'il y a la reconnaissance du diplôme qui prend beaucoup de place, et il y a aussi tout le vocabulaire qui est utilisé pour définir les études, qui met un peu trop d'hiérarchie dans les études. On parle de grandes écoles, tout ce vocabulaire-là qui met la hiérarchie dans les études, je trouve que c'est pas rendre service pour après que les jeunes s'orientent vers des métiers qui sont en ce moment en tension parce qu'ils sont moins valorisés dans la société, alors que enfin ça devrait pas. Et ça vient aussi, je pense, hein, de toute cette hiérarchisation entre les formations, et ça va du collège à la personne qui va partir en CAP, BEP, à une personne qui fait un bac S plutôt qu'un bac STG, et du coup qui sera peut-être plus valorisée déjà en terminale. Je trouve que déjà dans les études et dans les choix d'études, on ne revalorise pas assez tout ça, quoi.
Mais justement, c'est en fait, tu rejoins pile ce que je voulais dire.
Petite transition.
Tout à fait. Tu parles justement de tous les métiers sont importants. On l'a vu avec la crise sanitaire, hein. Il y a même des métiers qui ont été plus essentiels que d'autres, alors qu'ils étaient peut-être moins visibles parfois. Est-ce qu'il y a quand même encore aujourd'hui, mais je connais un peu la réponse, hein, mais une forme de dénigrement de certains métiers, et c'est souvent des métiers manuels?
C'est le cas, enfin, moi, dans ce que j'ai vécu. Alors, peut-être, maintenant, ça a un peu évolué, je pense, parce qu'il y a quand même pas mal d'actions qui sont mises en place. Je vois de plus en plus passer de témoignages, de vidéos où on met en valeur ces métiers-là. Après, à quelle diffusion ça a dans les écoles, dans les lycées, ça, je sais pas exactement.
Et dans la tête des parents aussi, en fait.
Oui, dans la tête des parents aussi. Mais j'espère que, enfin, je vois du positif. Après, c'est sûr qu'on est encore loin de tout est égalité. Mais oui, il y a clairement encore une pas très bonne image, moi, qui devrait être à améliorer, quoi, c'est clair.
Juste pour rebondir à la fois sur cette question de métiers qui sont peut-être moins valorisés, de systèmes d'orientation propres à la France et même de l'orientation de manière générale. Pour avoir rencontré des étudiants qui avaient fait un bac professionnel et pour les avoir coachés sur la préparation à des entretiens d'embauche, qui me disaient en fait, je suis parti dans mon bac pro, donc je suis parti en voie de garage. Je me dis, l'expression voie de garage, quand t'es lycéen, c'est pas toi qui vas l'inventer. Tu l'entends forcément de la part de quelqu'un d'autre. Et en fait, il y a des filières aujourd'hui qui sont considérées comme des voies de garage parce qu'elles sont très manuelles, parce qu'elles sont très techniques. Ça va être les CAP, ça va être les BEP, ça va être les bacs pro. Et en fait, c'est assez aberrant de se dire aujourd'hui, il y a une forme, ce que tu disais Julie, hein, de hiérarchie dans l'orientation, dans les diplômes, dans les formations. Et se dire que là, il y a cette hiérarchie qui est faite sur t'as fait un baccalauréat général ou t'as fait un baccalauréat professionnel. Tout de suite, t'es catégorisé. Et tout de suite, on va pas te prédire la même destinée, le même avenir.
Donc après le constat des difficultés et les problèmes qui existent, je vous propose qu'on parle maintenant de conseils que vous aimeriez donner, de petits tips que vous avez. Alors par exemple, qu'est-ce qui selon vous fonctionne le mieux pour trouver ce que l'on veut faire plus tard, ce que l'on veut être plus tard, comme tu disais Armand. Laura, je pense que tu veux réagir en première.
Moi, mon dada avec le podcast, c'est vraiment la pratique et la réalité du terrain, donc des stages, mais encore une fois, c'est pas toujours réalisable parce qu'on n'a pas forcément le temps. Après, on peut faire des petits jobs d'été ou rien que voilà, passer un coup de fil. Ça peut passer par des choses toutes bêtes. Notre famille, les amis de nos parents, des amis d'amis, demander voilà, qu'est-ce que tu fais concrètement dans ton métier? Être hyper curieux, sincèrement, poser leur des questions, quoi. Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils aiment, ce à quoi ils s'attendaient pas aussi, parce que c'est en effet une réalité de beaucoup de monde. On fait ses études, on a l'impression de connaître le métier, et en fait, on débarque et on fait « Ah ben d'accord, en fait, il y avait plein de choses que je n'avais pas compris ». Donc oui, à la fois, je dirais la pratique, mais aussi l'ouverture d'esprit et interroger les autres, les écouter.
Julie, Armand, à quel tour ?
Oui, bah, je suis très en phase avec ce que tu viens de dire, Laura. Je pense que rechercher le plus de témoignages possible, c'est une des clés pour arriver à se projeter dans une future, des futures études ou une future activité professionnelle. Et aujourd'hui, encore une fois, il y a plus de choses. Il y a le réseau, forcément son propre réseau, qu'on sous-estime, surtout généralement à cet âge-là. On se dit, ouais, mes parents, bon, tes parents, ils ont des amis qui ont des amis qui ont des amis, tes profs ont parfois des connaissances. Enfin, en fait, le réseau, il est énorme et on le voit pas. Enfin, moi, je me souviens que je le voyais pas du tout à cet âge-là. Et ensuite, maintenant, il y a des outils comme l'association Job IRL qui met en contact des jeunes avec des professionnels. Donc, il ne faut pas hésiter à s'inscrire sur ce genre de plateforme puisque les personnes qui s'inscrivent, elles sont là pour aider. Et voilà, et c'est clair que rechercher le plus de témoignages possible, c'est une des clés. Et les témoignages de professionnels et d'étudiants aussi, important, avant de choisir son école.
Parfaitement aligné avec ce que vous venez de dire. Bah, même Yoko, tu parlais tout à l'heure aussi de se connaître. Enfin, je pense que la première brique, c'est quand même de savoir au moins ce qu'on aime et ce sur quoi on est plus à l'aise. Savoir assez spontanément vers quoi on peut se diriger. On parle souvent de sortir de nos zones de confort, mais pour en sortir, autant faut-il la connaître. Et donc de savoir aussi le type d'environnement, le type d'univers dans lequel on est à l'aise, on est satisfait. Et puis après, comme vous l'avez dit, Laura et Julie, aller rencontrer des gens. Si possible, faire des expériences terrain. Alors, ça peut être des stages, ça peut être aussi de l'engagement associatif, ça peut être aussi du bénévolat. Mais voilà, tout ce qui est bon à prendre, en fait, pour découvrir un univers professionnel, soit en l'expérimentant soi-même, soit en allant rencontrer des personnes qui peuvent vous en parler. Et moi, je suis vraiment très convaincu du retour d'expérience.
On a parlé justement donc des stages, on a parlé un petit peu du bouche à oreille, en tout cas de la curiosité. Qu'est-ce que vous pensez des tests d'orientation ? On en a parlé tout à l'heure avec Julie, Laura peut-être.
Comme pour tout, ils peuvent être intéressants. Ça peut déjà nous guider, un peu défricher. Parce que des fois on sait juste pas du tout où on veut aller. Mais c'est à prendre avec des pincettes pour moi, parce que y a que nous qui pouvons le mieux nous connaître. Mais après, encore une fois, quelle tâche difficile à 15 ans ou à 18 ans ou même encore à 22 ans de savoir qui on est. Donc c'est à prendre avec des pincettes. C'est pas parce que le test nous dit vous devez faire professeur des écoles que vous devez absolument faire professeur des écoles. Ça va vouloir dire des choses de vous. Et c'est peut-être d'ailleurs plutôt les questions qu'on nous pose et les réponses qu'on donne qui sont intéressantes que le résultat. Et donc ces tests, pas forcément faire que des tests d'orientation sur les métiers, mais aussi un peu plus tard, on peut faire aussi des tests sur la façon dont on travaille. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle le test Boussole, qui a été développé par une société qui s'appelle Wake Up et qui nous explique notre façon de travailler et qui nous rappelle toutes nos qualités, parce qu'on a tendance à penser que notre façon de travailler est celle des autres automatiquement, ce qui n'est absolument pas le cas. Et on se dit, mais pourquoi lui, il fait pas ça? En fait, c'est parce que moi, j'ai l'habitude de faire comme ça, mais lui, il ne raisonne pas de la même façon. Et donc, cet outil Boussole, pour ça, est vachement chouette parce qu'il nous situe et il nous dit, vois tes qualités, n'oublie pas que tout le monde ne les partage pas, mais que toi, tu les incarnes et tu les portes. Et donc, tu serais peut-être plus fait pour des métiers ou univers qui font appel à ça, à ces qualités, etc. Ce qui fait qu'on change de prisme, on ne parle pas forcément de métier, mais on parle aussi d'environnement de travail. Et c'est hyper important, parce que parfois on peut se dégoûter d'un métier à cause d'une entreprise où voilà, on peut aller vachement loin, hein, de manager, etc. Mais voilà, c'est aussi important de ne pas raisonner qu'en métier, mais aussi en univers professionnel. Faut tester, en fait, hein, faut y aller. Personne ne pourra mieux acter et décider que nous. Donc on peut faire des tests, oui, mais il faut peut-être en faire de différentes sortes.
Merci Laura, je pense que tu vas nous quitter. Sauf si tu veux répondre à cette question, qu'est-ce qui t'aurait aidé quand t'étais ado ? Peut-être en quelques mots.
Ce qui m'aurait aidé étant ado, je pense, c'est qu'on me dise « Oui, c'est normal que tu te poses cette question, que ça te stresse, mais en fait, tu peux pas contrôler. » Moi, je fais un métier aujourd'hui qui n'existait pas il y a 2 ans. J'ai eu la chance de faire du podcast mon métier. Parle podcast tous les jours, c'est une passion aussi, mais ça n'existait pas. On m'aurait dit à 18 ans, tu vas être responsable podcast. Bon, voilà. Donc, en fait, j'aurais aimé qu'on me dise, normal que ça te stresse, mais en fait, lâche prise aussi des fois. Tu peux pas tout contrôler, tout savoir à l'avance. Par contre, prends les opportunités, reste hyper ouverte. Et c'est ce que j'ai fait dans mes stages. Après, dans tous mes stages, et je le conseille aujourd'hui à tous les jeunes que je croise ou à qui je donne des cours, mais c'est même si tu fais ton stage dans le service marketing, mais qu'il y a un autre métier qui t'intéresse dans la boîte, demande-leur 10 minutes. C'est ces 10 minutes, les gens sont toujours hyper contents de parler d'eux. Donc, de toute façon, voilà. Donc, en fait, vas-y et fais-toi ta propre opinion, ton propre avis sur ces métiers-là, et prends, et ensuite décide. Mais demain, pas la peine de choisir maintenant. toute façon, ça va bouger. On aura plusieurs métiers. Armand, tu en parlais. Et c'est, moi, je trouve ça génial aussi. Et beaucoup moins stressant, d'ailleurs. Et voilà. C'est ce que je pense. J'aurais aimé qu'on me dise, mais qu'on m'avait quand même un petit peu fait comprendre. J'ai eu un peu de chance aussi là-dessus.
Merci infiniment pour ta participation. Bonne fin de journée. Et puis, à très vite.
Merci, Yoko. Merci, Julie. Merci, Armand.
Peut-être que je voulais rebondir sur ce qu'a dit Laura. Il y avait déjà la question des tests d'orientation sur laquelle tu voulais réagir, je crois, Julie.
Oui, c'est vrai que sur les tests d'orientation, moi, je pense vraiment que c'est une bonne première étape quand on sait vraiment pas quoi faire, parce que les résultats, ils vont donner des pistes, en fait, à explorer. Mais c'est vraiment qu'une première étape. Et comme disait Laura, à prendre avec des grandes pincettes. Et parce que, en vrai, enfin, moi, je trouve ça un peu triste de se dire que... tu veux faire boulanger, il faut telle qualité. Je pense qu'on a tous une capacité d'adaptation et que, oui, il faut certaines qualités, mais que heureusement que tous les gens qui font pas du marketing, ils sont comme ça et pas autrement. Et sinon, enfin, ce serait très triste. Donc je pense que c'est là un peu la limite des tests d'orientation, c'est comment tu définis quel métier par quelle qualité, défaut. Donc je pense que là, ça a un peu sa limite, mais c'est quand même une bonne première étape quand on sait pas quoi faire.
Une première approche, donc. Armand, tu partages, c'est ta vie.
En fait, un test d'orientation, ça a d'intéressant que ça aide un peu à dessiner des contours. Il faut vraiment garder ça en tête comme un outil. C'est un outil, c'est pas une vérité en soi. Laura disait qu'il y avait plusieurs tests d'orientation qui lui parlaient et je trouve que c'est intéressant d'aller en chercher plusieurs pour croiser et à partir de là dégager des tendances. Et se dire, sur trois tests totalement différents, je vois que je suis quelqu'un qui n'aime pas rester derrière un ordinateur. Bon, ça aide quand même à donner un cadre un peu sur le type de métier qu'on peut être amené à faire plus tard.
Et qu'est-ce qui, donc, vous aurait aidé quand vous étiez adolescent dans votre recherche d'orientation scolaire et professionnelle?
Je pense que une des choses que j'avais pas du tout en vision quand j'étais au lycée, c'est les passerelles en fait entre toutes les formations. Et j'avais vraiment l'impression de devoir choisir et que ça y est, ça allait être la voie. Et ensuite, t'en bouges pas quoi. Alors qu'en fait, c'est faux. Enfin, déjà entre des secteurs d'activité, il y a des passerelles. Entre les formations, il y a des passerelles. On a parlé de reconversion tout à l'heure. C'est encore une autre passerelle. Et en fait, mon parcours, je l'ai fait un peu en... J'ai d'abord fait un BTS, ensuite un bac plus 3, puis un bac plus 5. Et en fait, on peut faire des choix par étapes. Et ça, j'en avais pas forcément conscience. Et plus t'évolues, parce qu'en fait, quand tu sors du lycée, tu commences tes études. T'évolues tellement, tu découvres plein de choses. Et... ta projection, elle n'est pas du tout la même. Et en fait, heureusement que tu peux te réorienter. Enfin, ce n'est pas forcément le mot réorienter, mais réajuster tes choix en plus tu avances dans ton parcours. Et ça, j'en avais pas du tout conscience. Donc voilà, c'est ça. Je pense que si on m'avait fait comprendre que vraiment, ce n'était pas un choix définitif, peut-être que ça m'aurait mis un peu moins la pression. Et j'ai fait 3 ans d'alternance pendant mes études. Et en fait, si j'avais un conseil, mais l'alternance, j'ai appris tellement de choses, j'ai rencontré tellement de professionnels, même pour la suite. Bon, j'ai eu une période de recherche d'emploi, mais j'avoue, j'étais peut-être un peu exigeante. Mais l'alternance, c'est vraiment un système que j'espère et que j'ai l'impression qu'il se développe de plus en plus avec notamment les aides de l'État. Et en plus, sur tous les domaines de compétences, que ce soit en école de commerce ou que ce soit sur des métiers qu'on a parlé manuels. D'ailleurs, l'alternance, c'était plutôt l'apprentissage sur ces métiers-là à la base. Et au final, maintenant, c'est vraiment de partout et je trouve que c'est vraiment quand même une dynamique positive pour les personnes qui veulent faire des études et du coup, essayer à mettre en valeur sur les moments d'orientation aussi, cette possibilité.
Parfait. Est-ce qu'un petit mot de la fin pour conclure cet épisode spécial Jouer Noël de la semaine de l'orientation? Peut-être vous avez, un outil à communiquer, un outil pour agir concrètement, comme tu parlais tout à l'heure des plateformes pour les tests d'orientation, un outil qui aiderait, par exemple moi si je parle de Canva, qui est un outil que je trouve absolument révolutionnaire, qui permet en fait de faire de jolies choses, c'est-à-dire un joli CV, un logo, un peu du graphisme, mais abordable pour tous et qui permet un peu de se démarquer parfois pour une candidature par exemple.
Pour moi, l'orientation, il y a donc toute cette phase de projection, mais il y a aussi toute une phase de compréhension avant. Et j'entends par là comprendre dans quoi on va se lancer, l'organisation des études, comprendre ce qu'est un diplôme, comprendre justement ce qu'est l'alternance. Aujourd'hui, si tu veux être un peu autonome dans ton orientation, il y a tout un savoir de base en fait qui est à acquérir, que ce soit la compréhension des études supérieures, de découvrir tous les outils qui peuvent t'aider. Donc j'ai cité Hello Charlie, JobIRL, c'est des plateformes que j'aime bien. Et ensuite, il y a toute la partie compréhension de ce qui t'attend, que ce soit Parcoursup, voilà, l'organisation. Et ça, en fait, si tu veux bien comprendre dans quoi tu vas te lancer, on a parlé du public et du privé, pareil, il y a des différences, c'est important de les comprendre avant de s'orienter. Et donc, pareil, il faut pas rester passif et... Sois actif et vraiment renseigne-toi bien, 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 beaucoup avant de faire ton choix d'orientation, même si, bon, faut éviter de se mettre trop la pression non plus parce que tu auras des moyens de te réajuster, mais vraiment être actif parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment plein de choses pour aider et il faut voilà, bien comprendre dans quoi tu vas te lancer, quoi. Voilà.
Bah, si vous voulez, je vous partage un outil, peut-être un conseil. L'outil, c'est un outil qui n'existe pas encore, mais qui va sortir là dans quelques jours. C'est le guide 2022 des podcasts à écouter pour trouver ta voix. On pourrait retrouver, je fais du spoil un peu sur le contenu, mais on pourra retrouver notamment Yoko et Laura. Non, c'est un outil qui, à mon avis, est intéressant. Nous, avec Tu feras quoi plus tard, du coup, c'est nous qui éditons ce guide et on a cherché à construire parce qu'on s'est dit qu'il y a énormément de contenu, énormément de ressources à travers les podcasts sur les questions d'orientation et on a souhaité les rassembler certains en un endroit qui nous ont particulièrement plu parce que il y a différentes approches. Il y en a qui vont être vraiment sur la découverte de métiers très concrets, très pratiques, d'autres plus sur des personnalités inspirantes qui vont partager leur parcours, d'autres qui vont analyser aussi un peu les tendances qu'il y a aujourd'hui sur le monde du travail ou même donner un peu le point de vue des recruteurs parce qu'on n'a pas toujours. Et en fait, on s'est dit dans ce guide, on va mettre à disposition différentes approches, différents regard pour aider justement à comprendre, comme tu disais Julie, cette information qu'il y a autour de l'orientation. Donc on est très content de le publier là avant la fin d'année pour pouvoir vous aider dans le courant de l'année 2022. Donc ça c'est plus le côté outil. Et sur le conseil, justement on a beaucoup parlé des conseils à écouter et aussi ceux à ne pas écouter. Faut pas oublier que c'est votre parcours professionnel dont on parle, c'est votre quotidien, en fait. À quoi est-ce que vous voulez passer vos journées ? C'est très important que vous ayez une réponse à cette question-là. Et en fait, il n'y a que vous qui avez les éléments, tous les outils dont on parle, tous les conseils, tous les retours, etc. C'est des choses qui peuvent vous aider à vous à prendre la décision. Mais c'est vous qui en êtes le juge, c'est vous qui allez pouvoir en profiter de cette décision. Après, je ne pense pas qu'il y ait toujours des bonnes ou des mauvaises décisions. Mais...
Vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
Dans ce que vous allez entreprendre, il y en aura toujours pour dire « Ah ouais, mais t'es sûr, c'est vraiment pour toi. Ah ouais, c'est quand même... Vous vous emmerdez. » Enfin, c'est... Non, mais vraiment, foncez. On a beaucoup parlé de la confiance en soi. Je trouve aussi que c'est un peu une formule magique parce qu'on est en mode, ouais, vas-y, aie confiance en toi, mais on ne dit jamais comment faire pour y arriver. Croyez en vous. Alors, parfois, c'est toujours intéressant d'avoir du recul et un regard extérieur. Hein. Mais ayez confiance en votre jugement. C'est votre expérience. C'est vous qui vous appuyez sur ce que vous avez vécu. Et c'est vous qui allez savoir ce qui est le mieux pour vous. Donc, foncez, allez-y et n'écoutez pas forcément toutes les remarques ou tous les conseils que vous pourrez rencontrer en chemin parce que tout le monde ne sera pas forcément bienveillant ou même en étant bienveillant, ils ne sont pas forcément suffisamment précis ou ils n'ont pas forcément tous les éléments que vous avez pour prendre ces décisions-là. Donc allez-y. Quoi.
Super. Bah en résumé, on met le guide des podcasts à écouter sur l'orientation, sur les métiers, sous le sapin. On s'abonne à la chaîne YouTube de Orientation Tips. Et puis, on écoute le podcast Into the Job de Laura. En tout cas, vraiment, merci à tous les trois pour cet échange que j'ai trouvé passionnant. J'espère que ce sera l'avis des auditeurs également. Si c'est votre avis, mettez un petit commentaire, on sera ravis. Et bien, écoutez, je vous souhaite une excellente journée à tous.
Ouais, merci.
Trop cool. Bah, merci à vous toutes pour vos interventions. Et merci encore, Yoko, pour l'invitation. Super content d'être intervenu à vos côtés.
Ouais, merci, c'était vraiment cool.
Avec plaisir.
Et voilà, cet épisode spécial est terminé. On a parlé de nombreux outils, donc je vais te mettre tous les liens en description pour que tu puisses les retrouver facilement. J'espère que les différentes visions partagées derrière le micro vont t'aider à avancer sur ce chemin difficile. En tout cas, si tu as une question, notre messagerie reste grande ouverte. Et pour mettre un commentaire et nous dire ce que tu as pensé de ce bonus, rendez-vous sur Apple Podcast. Tu n'as pas d'iPhone, on t'aime quand même. Allez, à mercredi prochain, cher Z.